France Inter, franceinter.com.
Il est 7h, un matin en 2040. Nous sommes à Tours, dans la petite cave de Baptiste Lenoir, caviste depuis 30 ans. Ici, les bouteilles sont uniformes depuis la loi Evin 2032. Même couleur, même forme, même avertissement sanitaire. Mais à l'arrière-boutique, derrière un rideau en toile, Baptiste conserve ce qu'il appelle ses fantômes.
Oui, bah regardez, c'est tout ce qui me reste des années d'avant. Les étiquettes, les armoiries, les couleurs. Ça, c'était mon langage de travail. Et aujourd'hui, c'est devenu illégal d'exposer ça. Alors je les garde ici comme des pièces de musée.
Vous dites que ça a transformé votre métier ?
Complètement. Avant, je racontais une histoire avec chaque bouteille. Je parlais du château, du terroir, de la famille derrière la cuvée. Maintenant, avec ces bouteilles totalement neutres, j'ai l'impression de vendre des solutions hydroalcooliques. C'est froid. Alors je résiste à ma manière. Une fois par mois, je rassemble une dizaine de clients pour ouvrir une vieille bouteille avec son étiquette d'origine. C'est un moment de partage. On se souvient que le vin, ce n'est pas seulement du goût, et c'est aussi une culture visuelle.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle gorgée sur France Inter. Aujourd'hui, nous explorons une question inattendue. Que devient le vin quand il perd son image ? Cela fait 8 ans que l'amendement Evin impose un packaging neutre à toutes les boissons alcoolisées. Plus d'étiquettes, plus de blasons, plus de typographie élégante, les bouteilles sont toutes identiques. Ce changement a bouleversé le rapport au vin, la filière et même la façon dont on fait société autour d'un verre. On va commencer ce débat avec vous, Henri.
Bonjour, moi c'est Henri, j'ai 70 ans et je vais vous dire, moi j'ai grandi avec les étiquettes de Saint-Émilion, les cuvées de famille, les bouteilles qu'on gardait comme des petits trésors. Alors quand l'État nous a mis ces uniformes gris sur toutes les bouteilles, j'ai eu l'impression qu'on coupait les racines d'un arbre vieux de 1000 ans.
Merci Henri pour votre témoignage. À côté de vous, nous avons Nora, 26 ans.
Salut, moi je bois très peu d'alcool pour des raisons de santé et d'intérêt aussi. Le vin, je le voyais surtout comme un objet culturel, un peu intimidant. Et c'est vrai que depuis 2032, avec la neutralisation, je me suis mise à en goûter davantage, parce qu'on n'est plus influencé par les codes, les grandes maisons, les bouteilles pour impressionner.
Et enfin, nous avons Malika, 30 ans.
Bonjour. Alors de mon côté, je bois plutôt du vin en soirée, en after work, pour des dîners entre potes. J'achetais souvent à l'étiquette, soyons honnêtes. Mais depuis le packaging neutre, je choisis au hasard... Ou alors je demande à une appli.
Commençons avec Henri. Comment avez-vous vécu cette uniformisation des bouteilles ?
Alors honnêtement, plutôt mal. J'ai grandi avec les étiquettes de château et les bouteilles aux formes particulières. Et pour moi, une étiquette, c'était une histoire. C'est même parfois un coup de foot visuel. Et du jour au lendemain, avec cette loi Evin, tout ça a disparu. Quand les premières bouteilles sont arrivées chez le caviste, j'ai eu l'impression de perdre un repère culturel.
On peut dire aussi avec cette loi que ça a mis fin à une certaine forme de snobisme. Avant, t'avais peur de choisir la mauvaise bouteille. Maintenant, comme tout se ressemble, tout le monde est à égalité.
Et c'est vrai que je rebondis un peu sur l'idée du snobisme. Pour les jeunes, ça enlève beaucoup de pression. Avant, il fallait connaître les codes, les régions, les appellations, les domaines. Aujourd'hui, tu choisis en fonction du goût ou des valeurs, pas du prestige de l'étiquette.
Donc finalement, on pourrait dire que cette neutralisation a rendu le vin plus démocratique, mais aussi plus déroutant pour ceux qui étaient attachés à son imaginaire. 8 ans plus tard, comment la filière s'est-elle adaptée ? Qu'est-ce que vous en pensez, Malika ?
Il faut dire que les bars à vin ont complètement changé. On ne te présente plus les bouteilles, on te fait goûter des profils sensoriels. C'est devenu très expérientiel finalement, presque comme une dégustation à l'aveugle permanente.
En plus de l'expérience, il y a un énorme mouvement autour de la traçabilité. Sur les étiquettes neutres, on trouve maintenant l'empreinte carbone, le niveau de pesticides, l'origine, parfois même les microbiomes du vin. C'est plus rationnel, mais aussi plus clair pour les consommateurs comme moi.
Moi, je suis pas vraiment d'accord. Moi, je trouve que ça complique tout. Le vin, il devient technique, presque médical. On est loin du plaisir simple d'ouvrir une bouteille juste parce qu'elle avait belle allure.
Mais cela a permis de repositionner le vin sur ses usages, ses bénéfices... sa fonction sociale. On pourrait dire que l'imaginaire visuel a disparu, mais l'imaginaire d'expérience a pris le relais. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que cette transformation a aussi modifié la notion de prestige ?
Oui, avant le prestige passait beaucoup par la bouteille. Aujourd'hui, il passe par la qualité mesurée, la méthode, l'éthique. Les grands domaines sont devenus des marques invisibles, on ne les reconnaît qu'en goûtant.
Je suis plutôt d'accord avec Nora, et en plus, il y a un vrai côté communautaire. Beaucoup de gens se retrouvent pour déguster à l'aveugle, échanger, comparer. C'est bien plus vivant qu'avant.
Oui, je dirais que le prestige existe toujours, mais qu'il est un peu plus discret, moins ostentatoire. On boit pour soi et pas pour montrer une étiquette à table. Et ça, on le voit notamment avec les QR codes qui ont été mis sur les étiquettes et qui nous renvoient à des récits audio. C'est un point positif parce que le son, du coup, reste autorisé, mais ça nous permet quand même d'avoir un peu d'histoire autour du vin.
Maintenant, si on fait un constat aujourd'hui, qu'est-ce qui crée encore la magie du vin ?
Je dirais le goût, le moment, le partage, c'est plus intime, moins codifié.
Pour moi, c'est plutôt l'expérience. Les bars immersives, les dégustations participatives, directement chez les vignerons, les ateliers sensoriels qu'on retrouve dans des pop-up à Paris, sur Bordeaux ou en Bourgogne. Par exemple, l'autre jour, je me baladais dans le Marais et je suis tombée sur un concept store qui vendait du vin alternatif. Ou encore, du vin vieilli en fût infusé au matcha. En fait, le bois vient d'étayer. Au final, on a remplacé l'imaginaire visuel par un imaginaire social.
Et puis, il reste la mémoire. Même sans étiquette, un vin raconte quelque chose. Le climat, la terre, la main du vigneron. L'histoire n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée selon moi.
Merci beaucoup pour vos témoignages, Henri, Malika, Nora. On peut dire que le vin a perdu son image, mais il n'a pas perdu son sens. Il s'est concentré sur son goût, ses usages, ses valeurs. Il est devenu plus égalitaire, plus transparent, parfois plus technique, mais toujours aussi présent dans nos moments de partage. Vous écoutiez La Nouvelle Gorgée sur France Inter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré aux alcools sans alcool, qui deviennent peut-être les nouvelles boissons festives de demain.